Sécu, le seul podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons vivre la francophonie à plein puisque je suis à Yverdon-les-Bains à la conférence Cyber Security Alliance. Et pour discuter de cet événement, je suis avec Sylvain Passini.
Bonjour, je suis professeur à l'école d'ingénieurs à Yverdon. Et c'est pour nous un plaisir d'organiser cette conférence. Je fais partie du comité d'organisation depuis 6 ans et cette année, je coordonne pour la deuxième fois l'ensemble de l'événement.
Julien Bachmann.
Bonjour, Julien, je suis chercheur en sécurité chez Koudelski Sécurité. Et dans le cadre de l'événement, je suis participant depuis la première édition à Yverdon en 2011. Et cette année, j'ai été responsable du comité de sélection.
Et Alexandre Herzog.
Bonjour, Alexandre. Je suis membre du programme du comité de sélection des programmes et historiquement j'ai eu travaillé dans le consulting et depuis quelques mois je suis passé du côté défensif dans une banque suisse.
Bon, mais alors la conférence c'est pas toujours appelé Cyber Security Alliance, vous avez rajouté le cyber tardivement pour raccrocher à l'air du temps. Qu'est-ce que c'était avant comme conférence?
Exactement, auparavant elle s'appelait Application Security Forum Western Switzerland. Et l'année passée, nous avons donné la première édition de la CyberSec Conference et le changement de nom est dû à un repositionnement de l'événement. Déjà le forum qu'on a transformé en conference qui nous semblait plus approprié à cet événement et surtout l'élargissement du champ puisqu'à l'origine c'est plutôt quelque chose qui concerne la sécurité logicielle et on a souhaité l'étendre à quelque chose de plus large, la Cyber Security. Mais on a, de la même occasion, aussi pour étendre l'événement, enlevé le Western Switzerland afin d'accueillir des participants et des orateurs de plus grands horizons.
C'est vrai que si on compare par rapport aux premières éditions, on avait, comme au niveau des, il y avait une journée de training qui existe toujours, mais qui était vraiment axée sur les développeurs, avec comment amener de la sécurité dans leur développement. Et on avait beaucoup de gens de l'OWASP, France ou Suisse, qui venaient donner des formations lors de cette journée.
Sécurité dans le développement, un thème sur lequel nous avons d'ailleurs fait une émission de podcast que j'invite les auditeurs à aller écouter. Bon alors Sylvain, est-ce que tu peux nous refaire un petit peu l'historique de la conférence?
Oui, volontiers. L'événement a été créé en 2010 par Antonio Fontes et Sylvain Marais. À l'époque, il s'appelait Geneva Application Security Forum. Il a eu lieu une soirée avec 3 conférences à l'Université de Genève. Par la suite, il a bougé à Yverdon, à l'HEGVD, avec 2 journées, une consacrée à des ateliers, une consacrée à des conférences sur 3 tracks. Et depuis 2012, il est ici à e-Park, aussi à Yverdon, donc dans le parc technologique. Et il est principalement sous une forme de 3 jours avec des formations et des conférences et différents événements.
Alors, donc, ce qu'on peut dire sur la conférence, c'est qu'il y a une journée de training et 2 journées de conférences avec une seule session en parallèle. Parce qu'il y a pas mal de formats de conférences différents et c'est finalement celui-là que vous avez retenu. Les années précédentes, il y avait des tracks, parallèles, c'était pas toujours évident de choisir.
Effectivement, depuis 2014, on maintient une seule track, ce qui permet d'avoir une continuité dans l'audience et de pas découper et de pas avoir de choix pour les participants.
Alors, tu peux nous en dire plus sur les participants? D'où est-ce qu'ils viennent? Combien ils sont? Qu'est-ce qu'ils attendent de l'événement? Parce que vous faites des business events en parallèle. Cette année, il y en avait un sur le thème de la blockchain. J'imagine que ça a dû attirer pas mal de banquiers de la région.
Effectivement. Alors, depuis quelques années, on a, comme tu l'as dit, une journée de formation, 2 journées de conférences. Et dans ces 2 journées de conférences, des événements annexes. Entre autres, un événement business adressé à une audience du tissu économique de la région. Un autre événement qui est le concours de ethical hacking, le CTF, adressé plutôt à une audience plus technique. Et finalement, on termine par une RUM session. Donc on essaye d'avoir un événement assez varié qui convient à toutes différentes sortes d'audiences. Par rapport au business event, donc effectivement, c'était une volonté d'amener une dimension plus économique, industrielle à l'événement et de faire connaître la conférence aussi à ces personnes-là.
Et donc, vous avez aussi des sponsors?
Oui.
Ce qui permet... parce que quel est le ticket d'entrée pour la conférence pour un participant?
Donc, le prix d'entrée est de 300 francs pour les 2 jours.
Puis à peu près 300 euros. Hein,
pour... A priori.
À 10% près. Alors, quelle est la structure qui organise ça? Est-ce que c'est une entreprise hein? Est-ce que c'est une association? Est-ce que c'est des bénévoles comment vous faites pour organiser
Alors, c'est une bonne question. La structure juridique derrière est l'APSEL, une association pour la promotion de la sécurité logicielle, qui est une association à but non lucratif et qui gère en fait les finances derrière. Maintenant, dans les faits, nous sommes à peu près une dizaine de personnes au comité d'organisation. Et derrière, on a, durant l'événement, encore une quinzaine de personnes qui sont dans le staff pour mettre en place l'événement. Et ce sont pour la plupart des bénévoles qui travaillent avec nous.
Et comment vous vous inscrivez dans le panorama des conférences en Suisse, enfin de la cybersécurité en Suisse de manière générale? Parce que peut-être que nos auditeurs ne sont pas tous familiers avec les nombreux événements.
Alors, je ne vais peut-être pas lister les nombreux événements, mais nous avons un événement qui est en ce moment bilingue, français-anglais, et qui permet de le démarquer des autres événements suisses qui sont plus orientés anglais ou plutôt allemands. En Suisse romande, donc pour les événements plus francophones, on a deux gros événements qui sont Insomniac et la CyberSec Conference, sur lesquels qui ne sont pas du tout en concurrence, vu qu'Insomniac est plutôt basé sur la réputation de son CTF, et nous plutôt sur la réputation des conférences.
Alors justement, parlons des conférences, puisque Julien, toi tu étais chef du comité de programme cette année. Alors est-ce que tu peux nous dire un mot sur les conférences qui ont été retenues?
Donc oui, on a eu pas mal de conférences qui ont été proposées. Pour ma part, c'était la première fois que j'étais responsable du comité. J'ai plutôt commencé en venant en tant que présentateur et puis ensuite membre du comité. Là, on a pu voir qu'on avait des conférences qui étaient également proposées à d'autres plus gros événements internationaux. Et on a quand même eu une sélection assez stricte. Je pense qu'on a été assez... on a des critères assez stricts dans notre sélection. On a essayé d'avoir des choses qui viennent de différentes parties de la sécurité informatique, pas uniquement axées sur une partie attaque ou défense, mais de couvrir les domaines assez variés pour que chacun s'y retrouve. Donc là, on a pu avoir des conférences, par exemple sur la gestion de l'intelligence, de threat intelligence et des indicateurs d'attaque. On a aussi pu avoir des choses au niveau des applications mobiles, également au niveau des attaques web, des attaques sur de l'embarqué et aussi deux keynotes, une sur tout ce qui est autour du bug bounty pour un peu démystifier ce concept et une qui vient d'avoir lieu sur comment formaliser un petit peu tout ce qui est exploitation logicielle d'une manière un peu plus mathématique, on va dire.
Oui, donc keynote sur le bug bounty par des gens que nous avons interviewés précédemment au podcast. J'invite les auditeurs à réécouter cette émission. Alexandre, qu'est-ce qui t'a plu, toi, comme conférence?
Alors, il y a encore plusieurs conférences qui m'intéressent cet après-midi. On est au deuxième jour, donc on est à midi. Il y a encore deux, trois choses très intéressantes, notamment IoT ou par exemple un bug bounty de la part d'un opérateur téléphone. Ce qui m'a beaucoup plu dans ce programme, c'est notamment une première journée où quelqu'un est venu présenter ses résultats de recherche sur le modem d'un de ses opérateurs. Et justement, on a en deuxième jour l'opérateur qui va prendre un peu position et expliquer son positionnement. Personnellement, j'ai trouvé encore assez effarant et très intéressant comment en 2016, on trouve des mots de passe par défaut qui datent d'il y a 15 ans dans un grand ERP leader sur le marché. Donc, ces règles d'hygiène semblent d'informatique ne s'appliquent pas encore partout.
Moi, j'ai bien aimé cette conférence parce qu'il y avait vraiment des démos qui marchaient. Le gars avait une instance qui tournait dans les machines virtuelles sur son laptop de présentation. Et il montrait comment exécuter des commandes système à partir d'un mot de passe par défaut assigné à un compte tout à fait secondaire.
Oui, et puis ce qui m'inquiétait dans ce domaine-là, c'est vraiment de dire, voilà, le vendeur en question a mis cette procédure en privé parce qu'elle pouvait être un tout petit peu limite. Mais ensuite, on passe juste par un proxy public pour ensuite pouvoir exécuter cette procédure privée. Donc c'est vraiment un peu cette réflexion dans sa globalité qui semble totalement manquée ou qui est exploitée. Et puis c'est de se dire mis bout à bout avec, si on lit les 200, pas, les 200 divers guides de sécurité qui sont disponibles pour le produit, on aurait certainement une vision globale, mais probablement eux-mêmes ne l'ont pas, mais que des versions très sectorielles. Et puis je pense que c'est ça qui est très intéressant lorsqu'on regarde en transverse, c'est de se dire, mais pas seulement savoir un module, mais sa globalité. Puis de ce côté-là, je rejoins tout à fait Julien pour dire que avec le programme, j'espère qu'on a une vision très transverse où chacun peut s'y reconnaître et surtout aussi découvrir un environnement ou des idées qu'on ne côtoie pas tous les jours. J'étais très heureux, par exemple, de revoir un talk sur la partie légale à propos de la responsabilité des robots qui ouvre pas mal de discussions et qui nous ouvre l'esprit à certains techniciens que nous sommes sur d'autres aspects réglementaires à venir où il faut qu'on ait voix de parole.
La conférence, c'est aussi des rencontres, des discussions. Est-ce qu'on peut parler un petit peu des soirées, des événements sociaux qu'il y a au cours de cette conférence ?
Il y a trois événements durant les soirées, au-delà du CTF et des rum sessions, par exemple. On a une première soirée qui est plutôt à restreindre au terme des gens, qui se passe dans un chalet d'alpage. C'est un peu Suisse oblige, c'était un peu obligé de faire une soirée comme ça.
Avec fondu, croûte au fromage, meringue double crème et toutes les spécialités locales.
Voilà, pour bien profiter de la région, surtout pour les speakers qui viennent d'autres parties d'Europe où ils ne connaissent peut-être pas forcément encore la fondue.
Et en fait, après tous les soirs, donc il y a un événement social qui permet aux gens de discuter, de se rencontrer, qui est organisé dans des restaurants, je dois dire, assez chic de la région. Est-ce que vous voulez vous parler un petit peu des discussions que vous avez pu avoir offline avec les gens? Parce que dans la conférence, il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas être dites dans les slides, mais qu'on apprend en discutant directement avec les personnes.
Un des aspects essentiels de la conférence pour moi, c'est vraiment c'est une des deux conférences où toutes les personnes de la région de Suisse romande se rencontrent, voire de Suisse se rencontrent. Et je pense que c'est cette émulation et cet échange informel. Je ne vais pas pouvoir donner trop d'exemples, mais notamment où des secteurs d'activité différents se rencontrent et se disent, ben voilà, je fais maintenant la même chose que toi depuis quelques temps et j'ai ce problème, ou est-ce qu'on se revoit tout prochainement pour échanger à propos des problèmes dans le domaine applicatif, puisqu'à la base, c'est quand même une conférence qui était axée sur la sécurité applicative, ou justement beaucoup plus large avec son rebranding récent sur tous les aspects de la sécurité qui nous préoccupent au quotidien ou qui nous préoccupent dans le cadre de certains projets spéciaux.
Mais ça, c'est peut-être quelque chose avec lequel les auditeurs ne sont pas très familiers, c'est le paysage de la cybersécurité en Suisse. Alors peut-être en Suisse romande d'abord et en Suisse de manière générale. Est-ce qu'il y a beaucoup de coopération ? Est-ce que l'industrie locale est très dynamique ? Quel est l'état de la réglementation ? On entend dire que la Suisse pourrait être un hébergeur de données pour l'Europe grâce à sa réglementation très protectrice de la vie privée. Est-ce que quelqu'un veut se lancer sur ce sujet ?
En Suisse, on bénéficie d'une loi sur la protection des données qui est très stricte, qui est inspirée du modèle européen, ou plutôt on va dire du modèle allemand, qui est un des plus stricts au monde. Donc les Suisses ont assez rapidement légiféré dans ce domaine. On est en train de regarder avec attention tout petit peu ce qui est en train de se passer aussi en Europe, pour refaire écho sur ce que vous avez déjà abordé dans le cadre d'un précédent podcast au niveau européen. La proposition de loi va venir, mais c'est vrai qu'auparavant on avait le secret bancaire. Maintenant, on a cet aspect de protection de la vie privée et des données. Et je pense que plusieurs acteurs tablent sur le fait qu'on garde une loi très, très restrictive sur ce qu'on peut faire des données qui sont stockées et qui y a accès. Et qui se positionne, entre guillemets, pour devenir le coffre-fort des données suisses. Certaines banques commencent à être dans le domaine et se disent... On ne sécurise pas seulement votre argent, mais on vous offre aussi un safe virtuel pour toutes vos données. Donc ce sont peut-être des trends effectivement à venir au niveau réglementation. Ensuite, au niveau du paysage, je pense qu'on a des acteurs très innovants, mais peut-être ce qu'il faut rappeler, c'est que la Suisse est un pays très décentralisé, au fait où toute compétence qui n'est pas explicitement dans la Constitution est du ressort des cantons, ce qui fait qu'on en a 26 de ces cantons. Donc, par exemple, dans certaines lois sur la réglementation cyber, etc., c'est très difficile d'avoir une entité qui guide le tout, mais c'est beaucoup d'initiatives qui ont lieu, beaucoup d'acteurs industriels qui se lancent là-dedans et qui débutent ou qui innovent de leur côté. Justement, on est ici à Y-Park, un de ces pôles d'attraction, un de ces technoparks qui se veut être un lieu d'innovation et où on a un cluster qui se forme de diverses compétences.
Alors effectivement, pour être dans la région, Y-Park se veut être un grand parc technologique et dont un des pôles de compétences est la sécurité de l'information. On a notamment un certain nombre de start-up qui ont démarré, comme Stronko, NetGuardians, Sismosoft, dans le domaine de la sécurité. Et c'est aussi pour cette raison que l'école, qui n'est pas trop loin, a beaucoup d'interactions avec le parc et a décidé de monter une formation en sécurité de l'information, ce qui est quelque chose d'unique en Suisse. Donc on forme des ingénieurs en sécurité de l'information.
Et alors donc au niveau fédéral, il y a quand même la centrale Mélanie qui est un peu l'équivalent de la NSSI. Comment ça peut se comparer ? Enfin, récemment, ils ont publié un rapport assez circonstancié, assez intéressant sur un cas d'intrusion qui s'est produit en Suisse. Je ne sais pas si l'ANSSI a fait la même chose. Vous êtes plutôt dans le full disclosure ou pas en Suisse ?
Je pense que ça penche plutôt sur le côté plutôt pas. et même là, on a eu une présentation avant sur le partage d'informations. C'est quelque chose qui est assez difficile, mais je pense peut-être comme dans chaque pays, mais certains secteurs d'activité qui sont spécialisés dans leur domaine ne sont pas vraiment pour le partage d'informations pour des raisons un peu business derrière, où ils ne veulent pas que ça puisse les impacter potentiellement, je pense, sur le côté un peu branding, réputation de la société. Et du coup, ça reste assez difficile d'avoir ces partages.
Justement, dans le domaine de Mélanie, c'est vrai que c'est une construction assez intéressante et typiquement suisse, on va dire, de compétences décentralisées où il y a quelqu'un qui coordonne ou comme ça. Ce qu'on peut peut-être dire, c'est que historiquement en Suisse, c'est plutôt du bottom-up plutôt que du top-down, c'est-à-dire qu'il y a plein d'initiatives qui ne sont pas forcément visibles. Il y a peut-être des échanges formels ou semi-formels qui se font et qui se construisent petit à petit. Donc, je pense qu'il y a un échange qui se fait, mais c'est vrai qu'il faut être encore peut-être dans la bonne entité pour avoir accès à des plateformes d'échange. Mais inévitablement, c'est en train de grandir et puis en train de gagner un tout petit peu en maturité pour l'instant.
Pour avoir parlé récemment avec des personnes du Mélanie, effectivement, il y a beaucoup d'échanges entre le tissu industriel et le Mélanie, notamment sur des incidents. Mais notamment, la plupart du temps, ça reste naturellement confidentiel, puisque les gens ne veulent pas que leur nom soit associé à un incident. Et le cas que tu cites avant a été choisi par le Mélanie, qui fait partie de la Confédération, car c'est justement une autre société dont la Confédération est très active. Et ils ont pu utiliser ce cas comme cas d'école.
Peut-être concernant le cas RUAG, je pense que puisque c'est le seul white paper très technique qui a été dit, j'ai beaucoup apprécié la publication et je pense que beaucoup d'entreprises en Suisse ont apprécié la publication pour un peu démystifier le fait que même si on est petit, même si on tendanciellement le Suisse est un peu discret et espère invisible à certaines entités, de se dire ça concerne vraiment tout le monde. Et ce que j'ai aussi apprécié, c'est le scope très clair annoncé et le fait que ce qu'on nous promet dans le document est vraiment délivré et on ne fait pas de conjectures, on n'utilise pas ça à des fins politiciennes, mais c'est un vrai document technique de travail. Et je pense que ça, c'est un des points où le Mélanie est très fort, c'est de se dire on reste à nos attributions. Il y a une partie politique qu'on ne va pas aborder ici du Mélanie dans le cadre de de la, sa stratégie sur les cyber-risques. Je pense qu'on en pourrait en faire un épisode à lui tout seul. Mais dans le domaine technique, je pense que ce sont des très bons interlocuteurs qui fédèrent pas mal de choses en Suisse et surtout qui savent, dans ce petit pays, parler à qui de droit ou savent, au cas où, avoir quelqu'un au téléphone si nécessaire.
Alors, la conférence a démarré par une keynote sur le thème du bug bounty avec des gens donc, que nous avons déjà interviewés chez No Limit Sécu, bug bounty européen. Comment on peut résumer cette introduction ? À ma connaissance, en Suisse, il n'y a qu'une seule entreprise qui fait du bug bounty, c'est Swisscom. Donc, ça a dû être une découverte pour la plupart des orateurs.
C'est vrai que peut-être de par le côté un peu secret qu'on peut attribuer à la Suisse, le bug bounty, c'est pas vraiment dans les gènes des entreprises qui sont plutôt à faire tout ce qui est sécurité. C'est un domaine qui est assez privé et on parle pas forcément de avec qui on travaille, qu'est-ce qu'on a fait. C'est des choses qui sont assez cadrées en Suisse. Donc le fait de se présenter sur une plateforme de bug bounty, c'est assez, on va dire, audacieux un peu pour une société suisse.
Et on a ensuite enchaîné avec un sujet tout à fait tendance, le ransomware. Mais alors cette conférence, elle est au-delà du ransomware. Elle parlait plutôt du ransomware ciblé, c'est-à-dire des gens qui prennent vraiment du temps pour faire du mapping dans les infrastructures et bien comprendre comment obliger la victime à payer. Alors j'ai trouvé que c'était une conférence très intéressante. Par contre, il n'y avait pas énormément de solutions proposées à part les backups offline, quoi. Parce que quand quelqu'un passe plusieurs semaines à faire en sorte que toutes les données soient correctement détruites ou chiffrées.
Non, c'est vrai que enfin, si le problème des ransomware était facile, on l'aurait résolu depuis longtemps. Mais c'est vrai qu'avec Candide, qui nous vient de Zurich, on a toujours un bon retour de ce qui se fait au niveau global. Et puis, je trouve une vision très faire des limites, mais aussi de ce que l'antivirus, qui n'est toujours pas mort, peut offrir. Et puis, sa pierre à l'édifice, c'est sur quoi on peut l'utiliser et sur quoi il faut peut-être soi-même se mouiller ou peut-être réfléchir plus loin de son côté.
Bon, ensuite, on a une intervention sur les modems ADSL Swisscom. Alors, il en existe plusieurs. Il y a plusieurs versions du hardware et du software. Et celle-là, c'était une exclusivité sur un modèle assez récent. Et moi, j'ai trouvé techniquement c'était très intéressant et en même temps, c'est toujours la même histoire qui se répète depuis 10 ans. Quoi. C'est impossible de faire. On n'arrive pas à trouver des équipements embarqués qui ont de la sécurité par défaut. Là, en l'occurrence, il exploite une faille. Il n'y avait pas de SLR, il n'y avait pas de page mémoire dans l'exécutable, etc. Quoi.
Ce que l'on peut dire à ce propos, c'est que il y a 2 ans, nous avons eu une rump improvisée de la part d'une personne autour de cette table qui avait déjà mis en pièce un précédent routeur pour démontrer un tout petit peu les failles. Donc c'est vrai que là, c'était un peu plus en détail. C'était peut-être des failles un tout petit peu plus, un peu moins triviales qui étaient exploitées, mais on peut dire que c'est un marronnier de ce genre de conférence. Si on s'y intéresse, forcément, on va y trouver quelque chose.
Mais là, ce qui était assez intéressant dans le talk, au-delà des vulnérabilités exploitées aussi, c'est qu'il a bien été dans le détail de ces différentes étapes. Donc, il n'a pas juste dit, voilà, j'ai exploité telle vulnérabilité et puis voilà, j'avais un shell sur le routeur. Il est vraiment allé dans l'utilisation de QEMU pour avoir une machine, un émulateur pour pouvoir débugger un peu ses exploits. Et puis, toutes les différentes étapes qu'il a fait en analysant les binaires et en essayant de faire un petit peu d'abstraction et d'éviter à tout prix de rentrer et de devoir lancer un décompilateur et puis de s'en tenir au web. Mais ce qui n'a pas été vraiment possible au final.
Oui, c'est vrai qu'il n'avait pas accès au matériel en fait qu'il était en train d'attaquer. Il travaillait offline à partir des binaires du firmware qu'il avait téléchargé sur Internet. C'était aussi une prouesse technique assez intéressante. Bon, la conférence suivante sur SAP, moi j'ai trouvé vraiment intéressante, surtout parce qu'elle était le gars avait vraiment une instance de SAP sur sa machine et il faisait des démos dessus. Donc on a pu se rendre compte à quel point c'était vraiment trivial de passer d'un mot de passe par défaut sur un compte très peu privilégié à un contrôle complet du système d'exploitation sous-jacent avec de l'injection de commandes.
Je pense que là le message c'est de dire read de funny manuel parce que tout était dans la doc ou du moins une grande partie était dans la doc.
Qui fait 700 pages, c'est ça, le guide de hardening officiel de l'éditeur
un des 200 guides de l'éditeur consacré à la sécurité et qui fait à lui seul un seul guide de 700 pages exactement.
Puis là, même si c'était des mots de passe par défaut, on pourrait se dire, bon, ben, je sais comment corriger la vulnérabilité, je change les mots de passe. Le problème avec ce type de solution logicielle, c'est est-ce qu'on va être sûr des effets de bord quand on va commencer à changer les mots de passe? Un peu comme les comptes de service Windows, où on a toujours oublié un service qui tourne avec les anciens credentials, et puis tout d'un coup, il y a une partie de l'infra qui ne marche plus. Donc, c'est peut-être pas si trivial que ça à corriger, surtout sur des systèmes en production, où quand on a du downtime dessus, ça peut coûter assez cher suivant les utilisations qui sont faites.
Oui, surtout, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il expliquait comment les mots de passe étaient rentrés dans le système. Par exemple, il y en a un qui n'existe pas à l'installation, mais si on utilise l'assistant Easy Configure du vendeur pour activer telle fonctionnalité, alors le compte est créé avec son mot de passe par défaut. Et donc, c'est vraiment intéressant d'avoir investigué quel était le processus qui attribuait le mot de passe, parce que ça en dit long aussi sur quand est-ce que le mot de passe va revenir. Par exemple, si on désactive tel composant, qu'on le réactive, ou si on redémarre tel service. Ça, c'était aussi une vraie valeur ajoutée. Ensuite, on a une conférence sur le WAF. Alors, c'est le Web Application Firewall. Ça, c'est vraiment un sujet un petit peu polémique. Mais l'auteur, qui travaille dans le domaine depuis 15 ans, a quand même une bonne vision d'ensemble de l'évolution du marché. Donc, c'était très intéressant et ça n'est pas du tout rentré dans la polémique. Il a dit arrêtez d'essayer de comparer les produits entre eux. Un WAF n'est pas un antivirus. Il faut les deux. Ils n'essayent pas de se faire concurrence, etc. Et j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant de se rendre compte à quel point aujourd'hui un WAF c'était compliqué et ça faisait beaucoup plus que les produits à base de pattern matching qui existaient au début des années 2000. Quoi.
En plus, il n'est pas juste resté dans la technique du WAF en lui-même, mais aussi dans l'opérationnel d'un WAF dans les entreprises. Avec à chaque fois, il est parti sur les différentes périodes, si on veut, un peu de tout ce qui s'est passé ces 15 dernières années dans le domaine des WAF. Et on voit que c'est un peu le ping-pong entre les équipes opérationnelles. Une fois, c'est le réseau, une fois, c'est l'infrastructure. Maintenant, il y a les équipes sécu qui gèrent un peu ça, mais à qui est-ce qu'ils reportent si on commence à faire typiquement de l'interception SSL, on va mettre en place des solutions qui vont faire de la rupture de flux. Du coup, peut-être que la responsabilité va tomber sur les équipes d'infrastructure et non plus réseau ou sécurité.
Ce qui est très intéressant, notamment dans le domaine de la Suisse, c'est que si on regarde du côté germanophone de la Suisse, on a des acteurs dans ce domaine qui sont totalement autres que ceux de l'aspect francophone. Et c'est assez intéressant de comparer un tout petit peu les timelines, car dans son exemple, c'était très orienté, on va dire, francophone. Mais si on pourrait faire le même historique du côté germanophone et de se rendre compte qu'au fait, les fournisseurs de WAF qui sont inconnus de ce côté de la barrière linguistique avaient des idées similaires, mais les ont implémentées à des moments différents ou ont pris des approches à certains moments tout à fait différents. Donc, c'était très intéressant de voir un tout petit peu aussi les divers aspects. Je pense que ça démontre bien le fait intéressant de pouvoir mélanger peut-être diverses cultures qui ont peut-être des aspects sécurité différents ou des approches sécurité à un moment donné différents.
Ensuite, il y a eu la conférence juridique. Donc ça, c'était sur la responsabilité légale des robots. Alors, est-ce que c'est un sujet qui est vraiment prospectif à l'heure actuelle? Est-ce que vous voulez en dire un mot?
Moi, j'adore avoir un aspect un peu juridique. En tant que technicien, on a tendance à se dire oh non, mais laissons ça aux juristes. Ce qui vient avec Sylvain Métil, on a souvent un aspect où il vient et puis dit mais moi, juriste de mon côté, il me faut des avis de techniciens pour qu'on puisse légiférer de manière sensée ces aspects-là. Et je pense que plutôt on ouvre la discussion et plutôt on voit les limites de certains concepts, notamment lorsqu'on a vu des concepts présentés là qui s'appliqueraient pour l'instant aux robots, mieux on est armé pour aller de l'avant et éviter de faire des lois qui se tirent une balle dans le pied comme ça nous est peut-être arrivé dans le passé.
Mais avec les lois d'Asimov, on est safe, non?
Je crois qu'elles ont été contournées, non? Et ensuite, donc, il y a eu un CTF, un challenge de sécurité qui a duré 3 heures, bon, auquel j'ai participé. C'était amusant. Il n'y avait pas beaucoup de niveaux. Il y avait des gens qui étaient spécialisés en web, par exemple. Il n'y avait que 2 niveaux web, donc ils ont assez vite fait le tour. Mais globalement, c'était quand même assez bien fait. Il y en avait pour tous les goûts. Il n'y avait vraiment pas du tout de guessing, ce qui est la plaie des CTF, hein, c'est-à-dire les challenges où il faut vraiment avoir l'idée, parce que ce n'est plus une question de technique ou de temps passé, c'est vraiment avoir la bonne idée au bon moment. Et donc, ça c'est, en plus, l'organisation s'est plutôt bien passée. Le serveur de validation a fonctionné en permanence. Donc ouais, j'ai bien aimé ce CTF. En plus, il y avait un petit côté local. Enfin, toutes les équipes étaient à côté les unes des autres sur les tables. Donc, on savait qui faisait quoi. Ce n'était pas les CTF où il y a 200 personnes qui jouent en remote et où finalement, on est noyé dans la masse, quoi.
Puis, il y a un point au niveau de l'organisation qui est pas mal, c'est que ça a tout été fait par les étudiants de l'école, de l'HEIG. Et on voit qu'ils sont assez motivés à faire ça. Puis bah, ça fait plaisir de voir les étudiants s'investir dans ce genre de choses.
Oui, surtout que moi, j'étais dans l'équipe d'un des professeurs de l'école qui a découvert qu'un de ses étudiants avait recyclé un TP en challenge de CTF. Donc, bon, il a validé le challenge, heureusement. Enfin, il a validé le niveau. Ensuite, la deuxième journée a démarré avec la keynote d'Alvar Flake, donc qui est un peu une rockstar, une légende de la sécurité informatique, et qui essayait en fait d'apporter une approche formelle sur les failles logicielles et l'écriture de code d'exploitation, en fait, en disant, bah voilà, aujourd'hui, il y a les arrangements de Wassenaar et autres qui essayent de réglementer ce marché, enfin, c'est la distribution d'exploits, comme on dit. Mais aujourd'hui, personne ne sait définir concrètement ce qu'est un exploit. Est-ce qu'un mot de passe par défaut, c'est un exploit? Est-ce qu'un stack overflow, c'est un exploit? Est-ce qu'une timing attack sur un HMAC, c'est un exploit? Et donc, il essayait d'introduire un peu de formalisme là-dedans. Mais bon, clairement, il a quand même dit que c'était quelque chose qui était très prospectif, expérimental, et qui prendrait 5 ou 10 ans avant que vraiment des gens essayent d'avoir une formalisation applicable dans la vraie vie. Qu'est-ce que vous en avez retenu?
Je trouvais que l'idée est intéressante. Pour en avoir discuté avec des gens qui sont à la conférence, mais qui ne sont pas forcément dans le milieu de la sécurité, ça leur a permis d'avoir une autre vision de ce qui est le domaine de l'exploitation. Et ils ont trouvé ça aussi assez intéressant et puis même compréhensible. Alors qu'on part de quelque chose qui est assez mathématique, donc on pourrait avoir un petit peu une appréhension sur le sujet, mais ça a été pas mal apprécié.
Ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est aussi au niveau de la formation. C'est vrai que c'est un art, c'est de la magie, c'est une sorte d'art qui est pratiqué par quelques personnes très très douées. Je pense que son point, c'est de dire, pour qu'on puisse bien le comprendre, l'appréhender et que ça devienne quelque chose de plus routinier et à mon avis, que les étudiants puissent mieux se l'appréhender, il y a peut-être une base théorique, un échafaudage à faire là autour, sur lequel on va pouvoir accrocher ensuite les divers cours qui sont actuellement donnés de plus en plus dans les universités à ce propos.
Oui, c'est vrai qu'il disait un truc tout à fait juste, qui est qu'aujourd'hui, la sécurité informatique, c'est avant tout une collection de trucs et astuces, et que chacun a ses techniques, ses machins, ses F8 dans l'IDBG et autres, mais qu'il n'y a pas de modèle derrière. Enfin, c'est des compétences qui sont très périssables et qu'il n'y a pas d'apprentissage réellement de ce qu'est la sécurité informatique. Ensuite, on a eu donc une deuxième conférence de Candide sur les indicateurs de compromission et qui était assez critique sur justement les indicateurs de compromission en disant que bah voilà, ça n'arrêtait pas, c'était pas vraiment utile contre les attaques vraiment ciblées, puisqu'en fait on ne faisait que faire de l'archéologie, mais que en temps réel, ça n'était pas très efficace pour protéger son réseau. Est-ce que vous qui parlez de partage d'informations, est-ce que vous avez un avis là-dessus?
Mais il a dit quelque chose qui était très juste aussi, c'était un peu connais-toi toi-même, qui est peut-être pas facile pour toutes les personnes qui font de l'opérationnel sur des réseaux, de savoir qu'est-ce qui doit se passer, qu'est-ce qui ne doit pas se passer, mais il avait un point qui était qu'avant de commencer à chercher des indicateurs de compromission externes, qui soient gratuits, payants ou partagés, il y avait aussi un côté d'essayer de les détecter soi-même via le comportement du réseau. Après, là, on a eu des talks à d'autres conférences aussi récemment sur ce qui est Purple Team, avec essayer de comprendre, de joindre une red team et une blue team en essayant de lister toutes les attaques possibles et tout ce qui est le chemin de compromission qu'utilisent les attaquants.
La kill chain,
voilà, il me manquait le buzzword. Et de se dire, pour la kill chain, moi je vais essayer de les détecter à tel niveau et de lister du coup en quoi ça correspond. Et à partir de là, de dire, je sais qu'ils vont utiliser telle et telle méthode. Dans leur méthode, il y a des effets de bord, la création de logs, des paquets réseaux qui sont peut-être mal formés ou ce genre de choses. Donc ça rentre un peu, c'est des IOC, mais qu'on va devoir se générer soi-même jusqu'à ce qu'il y ait un framework aussi qui soit présent là-dessus.
Oui, en clair, acheter les flux de quelqu'un d'autre, c'est beaucoup moins efficace que de faire vraiment du travail sur son réseau pour savoir quels sont les points de passage et les indicateurs pertinents dans son environnement, quoi.
Et notamment son point, c'est-à-dire acheter un flux à plusieurs milliers ou encore plus de dollars ne sert à rien. Ce n'est pas comme le problème de l'appliance. S'il n'y a personne pour l'appliquer, pour le comprendre, et pour l'évaluer, ça ne sert à rien. Il faut des personnes et une compréhension.
Alors ensuite, on a eu une présentation sur un sujet un petit peu polémique, les malwares iOS. Alors, je pensais qu'il n'y avait pas de malware sur iOS. Et apparemment, ce serait un biais des études qui se focalise sur les stores US, mais en fait, les malwares sont très très répandus dans la zone Asie-Pacifique, où les modèles de distribution sont un petit peu différents. Et on a assisté à plein on a eu plein d'exemples sur le sideloading de malware signé avec des certificats volés ou des certificats d'entreprise volés, des méthodes qui permettent de surveiller un téléphone sans. En utilisant simplement les fonctionnalités de l'API, mais sans forcément jailbreaker ou abuser de l'API. Donc finalement, apparemment, il y a beaucoup plus de malware que ce qu'on imagine sur iOS. Puisque c'est toi l'intervenant, tu veux... Est-ce que j'ai bien résumé ?
Oui, ouais, c'est assez juste. Il y a différentes méthodes qui existent. Il y a quand même des malwares. Bon, après, ils se comptent un peu sur les doigts de la main, donc on n'en est pas non plus... Il y a pas encore beaucoup de produits qui s'attaquent à ça, c'est pas encore assez grand, mais puis on a certaines restrictions, mais c'est quand même quelque chose qui existe et qui est assez intéressant à regarder, même si quand on regarde le niveau de sophistication de ces malwares actuels, on n'a pas quelque chose qui prend vraiment très complexe ou autre dans les cas des applications qui sont très distribuées en Asie. Après, on a un troisième cas encore qui est le cas d'attaque comme l'attaque Pegasus ou Trident, où là on voit un niveau de sophistication qui est un petit peu plus haut quand même, où on passe avec des vulnérabilités dans WebKit et dans le kernel pour réussir à exécuter du code en accédant juste à un lien sur le terminal iOS, et où après le malware va utiliser un CNC via des SMS, qui est quand même quelque chose de beaucoup plus avancé.
Bon, là, c'est clairement, on est dans l'attaque, la $1 million attaque, quoi. C'est pas du malware grand public distribué en Chine par des SMS malveillants qui t'incitent à installer une application.
Ouais, non, là, je pense que par rapport à ça, il faut qu'après les entreprises, elles sachent un petit peu quel est leur modèle d'adversaire. Puis c'est un peu de forger ses attaques en fonction de son modèle d'adversaire et puis savoir que ça existe, mais peut-être de voir est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va m'arriver pour l'instant.
C'est un sujet que je ne maîtrise pas du tout, et donc j'étais ravi d'avoir une vision très complète de la part de Julien. Moi, ce qui m'a frappé, c'est malgré tout de se dire, oui, il y a ces aspects techniques de la plateforme qui permettent, qui ont diverses barrières, etc. Mais si nos utilisateurs, si on ne les sensibilise pas régulièrement à cliquer juste OK, malgré tout, il y aura toujours un edge case où il y aura peut-être quelque chose qui va réussir à passer. Donc c'était très intéressant aussi de ce niveau-là, même si maintenant l'edge case en question, si j'ai bien compris, a été nouveau comblé. Mais c'est de se dire, c'est d'avoir cette idée de ce n'est pas parce que c'est la plateforme la plus sûre que l'utilisateur n'est pas forcément et 100% protégé.
Ouais, avec le cas le plus simple, une application, un jeu qui demande accès au carnet d'adresse, est-ce que c'est pertinent ou pas, surtout quand on sait que le carnet d'adresse pourrait être celui de l'entreprise ou synchronisé avec celui de l'entreprise, et dans certains secteurs d'activité on n'a pas forcément envie que les contacts soient récupérés par n'importe qui.
Surtout que l'éditeur du jeu en lui-même n'est pas forcément malveillant, mais par contre son infrastructure de stockage des contacts, elle peut être stockée dans une base MongoDB exposée sans mot de passe sur internet, quoi. Bon, mais ensuite, il y a toutes les conférences qu'on n'a pas encore vues, donc on ne va pas en parler, mais il y a quand même Renaud Lifshitz qui vient présenter ses attaques sur Sigfox, très attendues. qui ont déjà été présentés, mais je crois que les gens ici ont un intérêt particulier. On va avoir une présentation du Bug Bounty Swisscom, donc il va faire écho à la keynote du premier jour et aux présentations des attaques sur les modems. Et puis aussi une conférence de clôture sur une attaque sur le GSM qui apparemment permettrait de casser toutes les versions d'A5, du point de l'algorithme de chiffrement A5, même celles qui ne sont pas censées être cassables. Donc j'attends cette conférence avec impatience. Et évidemment, les slides seront disponibles. Alors les conférences ne sont pas enregistrées en vidéo, mais par contre, les speakers qui l'acceptent publient leurs slides sur le site de l'événement, cybersecurityalliance.ch, c'est ça ?
Donc oui, a priori, les speakers qui l'acceptent pourront publier leurs slides aussi sur notre compte SlideShare.
Et encore, après toutes ces conférences, il y aura des conférences plus courtes sous le format de Room Session, où c'est vraiment 5 minutes montre en main. Et si on dépasse le temps, il y a une pluie de fléchettes nerf qui viennent dessus, quoi.
Mais ce qui se passe dans les Room Sessions reste dans les Room Sessions. Bon, ben merci à tous pour votre participation et à bientôt pour un nouvel épisode.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir.